Rebonjour Luc.
Bonjour Steve.
Éventuelle application de la loi sur la laïcité, on a entendu dans le reportage un petit peu plus tôt, il y a quelques minutes, Geneviève Guilbeault
ça a été difficile.
Il allait fort. La police sera en renfort quand vous allez tricher sur la laïcité.
Écoute, pour une ministre qui allait bien quand même depuis le début du mandat.
Drôlement bien même.
Oui, qui performait bien. Hier, elle a connu une journée équivalente à celle de Mélanie Joly lorsqu'elle a parlé de son entente avec Netflix. Je pense que ça va la suivre longtemps. Parce qu'écoute, là, c'est pas Roger dans le fond de la taverne Alexandre avec sa paire de sept puis son smoke meat qui a dit que c'est la police devrait appliquer ça. Là. C'est la vice-première ministre du Québec qui est ministre de la Sécurité publique, qui est, dans le fond, à la tête de la police au Québec, qui a dit que c'est la police qui va appliquer la loi sur la laïcité. Imagine-toi, là, un professeur qui porte un hijab ou un juge qui porte une petite quoi, ah ouais, dans le panier à salade.
C'est non, c'est l'équipe de SWAT qui va débarquer.
Peut-être. Non, mais peut-être.
Sais-tu quoi, le pire, là, tu parlais hier de mauvais briefing, tu sais, de gens mal préparés.
Ben oui.
Elle était clairement mal préparée parce que sa logique, vite, vite, là, logique à 5 cents, 100%, ça marche. Normalement, une loi au Québec, c'est la police.
Dépendamment
de quelle loi, là.
Mais la plupart des lois sont pas appliquées par la police. Regarde, la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance qui vise à protéger nos enfants, qui sont dans les services de garde, c'est ce qu'on a de plus précieux au Québec, nos enfants. C'est pas la police qui l'applique, c'est le ministère de la Famille. Alors, tu sais, et puis la police peut être appelée pour aider les inspecteurs du ministère, disons s'il n'y a pas de collaboration, mais ça, c'est toujours un procédé normal. Mais c'est pas la police qui débarque pour faire l'inspection
dans la
garderie. Non?
Mais tout ça est pour dire que, de toute façon, c'est impossible.
Ben non.
Pense-y logiquement, on en parlait un petit peu plus tôt, t'imagines ça, toi? Mets-en un dans le panier à salade, mets-en un en arrière des barreaux, là. Ça va avoir l'air de quoi à l'international, dans les journaux, puis dans... C'est impensable. Tu peux pas te rendre là.
Alors, c'est qui va l'appliquer, la loi? On sait pas.
Et en tout cas, c'est pas clair encore.
Ben moi, ce que j'ai trouvé pire hier, là, au-delà de Geneviève Guilbeault puis de Sonia Lebel, c'est le premier ministre qui dit là, j'ai des ministres inexpérimentés qui ont répondu à des questions hypothétiques. Hey, c'est pas hypothétique. Il veut-tu l'adopter ou il veut pas l'adopter, son projet de loi? Mm-hmm. S'il est adopté, il va être en vigueur. Comment il va l'appliquer? C'est une question qui est bien légitime. C'est pas une question cochonne, comme il a dit aux journalistes hier. Elle est tout à fait légitime. J'en ai fait adopter, moi, des projets de loi comme ministre, puis je le savais, comment j'allais l'appliquer, comment les sanctions allaient être appliquées, c'est quoi les vérifications qui allaient être faites, qui allait être en charge des inspections, par exemple. Lorsque tu t'en vas présenter un projet de loi sur la place publique, tu es prêt à répondre à ces questions-là. Et moi, je pense que le responsable de cette situation-là, ben, c'est Simon-Jolin Barrette. C'est lui le ministre responsable de ce projet de loi-là. Puis visiblement, dans ses discussions au Conseil des ministres, au caucus, il n'a même pas informé ses collègues ni le premier ministre à savoir comment ça va être appliqué. Ils ne sont pas capables de répondre sur un projet de loi qui est le plus important jusqu'à présent déposé par ce gouvernement-là. Alors, je sais que tu vas le recevoir.
Oui,
tantôt,
autour de 8h20.
Je pense avoir des bonnes questions pour lui, honnêtement.
Ben, assurément sur l'application.
Ben.
Et honnêtement, entre toi et moi, une loi pas d'application, s'il n'y a pas de sanction, oui, effectivement, c'est une loi pas de sanction, ça sert à quoi?
Ben, c'est difficile. C'est sûr que c'est plus difficile à faire respecter, mais en même temps, ça va être quoi la sanction que, par exemple, que quelqu'un porte une croix dans son cou, qu'une enseignante porte une croix dans son cou? Comment tu vas la sanctionner? Tu vas la suspendre de son travail? Tu vas lui donner une amende?
Ben, tu dois y aller comme ça.
Puis si elle récidive, tu vas lui faire perdre sa job?
C'est ça, éventuellement. J'imagine, là,
c'est pour les nouveaux, hein, parce que oublie pas qu'il y a une clause grand-père pour ceux qui sont déjà là, imagine-toi.
Ceux qui portent des croix, puis des turbans, puis des voiles, c'est bon pour 40
juste,
ans encore.
C'est juste pour les nouveaux,
oui,
tu comprends?
Mais ce sera plus facile de ne pas les accepter si tu le sais d'avance. Mais,
ouais.
On parlait de la fameuse policière voilée, entre autres, là, celle qui était sément d'école.
Mais au-delà de ça, moi, j'en ai un bon cas d'espèce, justement, pour le ministre Simon-Jolin Barrette. Disons que tu as un juge qui porte un signe religieux, disons, catholique. Toi, tu es accusé, tu es musulman. Tu te retrouves devant le juge, il y a sa croix dans le cou. Peux-tu faire arrêter le procès pour dire « Moi, je pense que le juge sera pas neutre à mon égard. J'aurai pas le droit à un procès juste et équitable. » Qui? Tu sais, qui va pouvoir justement invoquer la loi? Est-ce que c'est le juge en chef qui peut le sanctionner? Mais lorsque tu es là, dans le tribunal, devant lui, est-ce que tu peux plaider, dire « Ben non, moi, j'accepte pas d'être jugé devant lui. » Il n'est pas neutre, le juge. Voyons.
Et dans un... Comment je te dirais ça? Dans un projet de loi... Tu as essayé aussi serré, tu sais, où tu utilises la clause dérogatoire et tout et tout. Il me semble que tu dois avoir pensé à ça.
Ben oui, parce que tu as pensé aux éventuelles contestations judiciaires, mais tu n'as pas pensé à comment l'appliquer. Alors que, tu sais, c'est la base, là. Avant d'être contesté, tu devrais l'appliquer, ton projet de loi. Honnêtement.
Oui, tu as raison. Expulsion du caucus libéral de Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott. Mettons que ça commençait à chauffer pas mal.
Mais il n'y avait plus le choix, moi, je pense, Justin Trudeau. Beaucoup, beaucoup de pression dans son caucus. Tu as vu les commentaires des députés libéraux hier qui étaient très impatients. Fait qu'à un moment donné, là, c'est parce que si tu perds le contrôle de ton caucus, ça risque de sortir de partout, puis tu vas avoir toutes sortes de commentaires. Alors, il n'y avait pas le choix d'aller dans cette direction-là hier. La grande question hier, c'était, est-ce que ça arrive trop tard?
Mm-hmm.
Puis il y a beaucoup de commentateurs qui ont dit, ben oui, il aurait dû faire ça avant, puis tu sais, c'était un manque de leadership. Mais moi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça. Tu sais, la politique, c'est beaucoup une question de timing. Et il y a eu une espèce d'opportunité où il est survenu un événement qui a pu justifier justement son action. C'est le fameux enregistrement que Jody Wilson-Raybould a fait d'un appel téléphonique avec le greffier du conseil privé. Alors, il est survenu ça, puis ça a soulevé plusieurs questions. Parce que, tu sais, si Justin Trudeau l'avait expulsé il y a un mois, ça aurait été bien pire pour lui.
Oui, oui.
Parce qu'elle avait un aura, là, tu sais, elle était vue comme étant plus sainte que sainte. Mais là, les derniers événements ont fait en sorte que certaines personnes se sont posées des questions. Quelles sont ses intentions? Est-ce que c'est prémédité? Et puis, pour les députés libéraux, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais là, à l'enregistrer, tu sais, c'est-tu un motif d'expulser du caucus? Mais mets-toi à la place des députés libéraux, qu'eux autres, ils se disent, ben, qui d'autre qu'elle a enregistré?
Mm-hmm.
Quand elle vient au caucus, est-ce qu'elle nous enregistre?
Oh oui.
Comment on peut s'exprimer librement lorsqu'elle est là? Fait...
Il n'y avait plus de choix, mais en même temps, il vient peut-être de se créer deux nouveaux problèmes. Elles vont-elles se présenter indépendantes? Vont-elles se présenter sous la bannière conservatrice?
Ben, en tout cas, pour Jody Wilson-Raybould, chez les conservateurs, ça m'étonnerait qu'elle est autochtone. Et on sait qu'il y a des relations difficiles entre les autochtones et les conservateurs. Avec le NPD... peut-être plus réaliste.
Mais en même temps, veux-tu te présenter avec des perdants? Je veux pas être plate, là, mais...
Ouais, mais pour les autres partis aussi, c'est sûr que c'est tentant de les attirer à court terme, mais c'est un méchant bon coup.
Ben oui.
Sauf que tu y penses, là.
Vas-tu m'enregistrer?
Ben, tu sais, ils sont pas faciles à gérer, là. Alors, tu te dis, ouais, à court terme, je vais marquer des points, mais à long terme, est-ce qu'on va le regretter?
Ouais.
Fait que, tu sais, tu te poses cette question-là, mais c'est quoi leur avenir, justement? Est-ce qu'elles vont se présenter comme indépendantes? Parce qu'elle a de grandes aspirations politiques, Jody Wilson-Raybould. T'sais, sur le point de vue de l'anecdote, puis ça a circulé sur les médias sociaux, je ne sais pas si tu as vu ça, une conférence à laquelle son père prenait part et où Pierre Elliott Trudeau, le père du premier ministre actuel, était premier ministre du Canada.
Mm-hmm.
Et puis justement, le père de Jody Wilson-Raybould est représenté les Autochtones de la Colombie-Britannique, venait plaider justement pour plus de services, que lui, il avait deux filles qui avaient beaucoup de potentiel et que ses deux filles voulaient être premier ministre.
Oh, alors quand même, hein?
Alors, c'est ressorti ça la semaine dernière, par hasard.
Ce n'est pas par un hasard.
Ceci étant dit, je pense que Justin Trudeau n'avait pas le choix d'aller de l'avant avec cette expulsion-là hier.
Est-ce que c'est la fin? Moi, c'est ça la question. Est-ce que ça va faire rebondir d'autres choses?
Ben là, en tout cas, peut-être que ça va les inciter à faire des déclarations, à se venger davantage. Mais la grande question, est-ce que ça pourrait causer davantage de dommages à la marque libérale ou au Parti libéral? Moi, honnêtement, je pense que les gens sont tannés d'en entendre parler. Le dommage qui avait été fait a été fait.
Ouais.
Puis peu importe ce qui va arriver, je pense pas que ça va changer les intentions de vote.
Et au Québec, on en parle déjà pas mal moins.
Oui. Parce que, tiens, on est passé à autre chose. Puis, au Québec, la plupart des gens veulent que ça se règle parce qu'on ne veut pas avoir de conséquences économiques. Donc, on n'est pas d'accord avec elle, de toute façon.
Luc Fortin, merci beaucoup.
À demain!